I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avant de passer un bon moment, n'hésitez pas à venir nous voir dès janvier 2023. On fait la tournée des Zéniths avec Navo. Navo sera en première partie. Ce sera l'occasion de le découvrir sur scène pour ceux qui ne le connaissent pas. Et venez, c'est les dernières de Une Bonne Soirée. Après, il n'y en aura plus. Beaucoup de gens m'ont dit, putain, on a raté Pulsion. Ne ratez pas Une Bonne Soirée. Janvier, dans toute la France. Et on fait deux dates en Belgique aussi. Bisous. Bonjour à tous, bienvenue dans Un Bon Moment, j'espère que vous allez bien, je suis toujours accompagné de mon pote Navo.
Oui,
c'est moi. Comment ça va Navo ?
Eh ben écoute, super.
Bah super.
C'est vraiment un bon moment.
C'était cool. Aujourd'hui on reçoit Maurice Barthélémy.
C'était cool. C'était cool.
Eh ben c'est cool.
Ah, c'est cool.
Ouais. Okay. J'ai dit c'était cool.
Tu vis dans le passé, t'étais déjà dans la nostalgie de ce
automatiquement
qu'on
le présent est déjà dans le passé.
Bah oui, le temps que mon image t'arrive, en fait on ne peut voir que le passé.
Il y a 5 secondes c'était cool.
On c'était peut voir que le passé. Tu te rends compte ? Parce que le temps que ton image m'arrive, même si c'est un millième de seconde, tu peux jamais voir vraiment le présent.
Mmh.
C'est ouf. Hein.
Et ça remet en question la définition du bonheur.
Et du présent. Bah oui.
Bah forcément.
Évidemment.
Est-ce qu'on peut vraiment être dans l'instant présent quand on ne peut pas le voir ?
Techniquement, non.
On les présentera dans une demi-heure. Viens, on en parle un peu.
Maurice Barthélémy, Rosa Rochen, comment ça va ?
Pas mal.
Vous allez bien ?
Ouais.
Les gens se disent, mais c'est fou, il y avait une ambiance ce jour-là.
Ouais, c'est fou,
à l'audio, c'est un jour incroyable. Comment allez-vous, les amis ?
Rosa.
Super.
Ouais, ça va bien ? T'es contente d'être là ?
Ouais, je suis trop heureuse d'être là.
Rosa, tu as un podcast qui s'appelle « Les mecs que je veux ken ».
Oui.
C'est ça, tu peux nous en parler un peu ?
Bien sûr. Au départ, c'était un peu une blague parce que...
Finalement, tu les as ken.
Tu es humoriste.
Oui.
Et tu as un podcast à côté de...
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Ouais, c'est ça. Je trouve que les deux se marient bien. Podcast et stand-up, parce que le podcast permet d'inviter des camarades stand-uppers et de discuter du stand-up. Et parfois, au fur et à mesure de la discussion, même de penser ou de rôder des idées de blagues qui peut-être se retrouveront sur scène. Ouais.
Moi, j'aime beaucoup ce podcast. Je l'écoute, je découvre beaucoup de portraits, beaucoup de gens intéressants, des gens que je n'aurais pas l'habitude d'entendre. Et puis surtout, le podcast, c'est aussi le moyen de prendre des nouvelles des gens. C'est ça, parce que tu t'écoutes, tu dis il fait ça en ce moment, lui. Ah, c'est pas mal, ça faudrait l'appeler.
C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qu'on connaît, genre ça fait longtemps que je ne les ai pas appelés, puis finalement j'écoute un podcast.
Ouais.
J'ai des nouvelles d'eux. Même des fois, tu en apprends sur leur vie que tu n'aurais pas su si tu ne les avais pas entendus interviewer.
Exact.
Je pense que les gens devraient s'interviewer entre eux.
Bah oui, c'est vrai, c'est ça.
Tous,
ça
en dehors même du milieu artistique. Je pense qu'entre amis,
aussi.
On devrait s'interviewer.
Parce que si on met tellement de contenu sur ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, tu sais, parfois il y a des gens qui disent alors t'étais.
Même en réseau privé.
Non, mais justement, en réseau privé, je me dis peut-être que des groupes d'amis devraient s'entre-interviewer et se partager l'interview.
C'est ce que les gens ont ressenti, c'est intéressant.
Disant pendant une heure, je vais vraiment te demander, mais ton père, il faisait quoi tu vois.
Ouais, c'est une bonne idée.
Et on reçoit aussi Maurice Barthélémy, qui est le réalisateur d'un des plus grands films de ma vie, le film Papa.
Ah bah dis donc.
Avec Alain Chabat.
Ouais.
Comment ça va, Maurice ?
Pas mal, ouais. Plutôt en forme.
Alors, à l'heure actuelle, on enregistre ce podcast, tu es en train de jouer un spectacle qui est l'adaptation d'un livre que tu as écrit qui s'appelle « Fort comme un hypersensible ».
C'est ça.
Et on va parler d'hypersensibilité dans tout ce podcast. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi être hypersensible ?
C'est ce sujet que tu as eu envie d'aborder.
Bah oui, je me suis
ça
dit.
Ça m'étonne de toi.
Bah non, mais moi, je suis...
C'est
pourquoi
vrai
tu
que...
dis ça ? Pourquoi tu me dis ça ? Je culpabilise, j'aurais pas dû.
On n'a pas dit paranoïaque, on a dit hypersensible.
J'aurais pas dû.
On m'a demandé sur scène si l'hypersensibilité faisait perdre des cheveux. Alors j'ai répondu bah oui. Forcément.
C'est quoi être hypersensible alors ? Parce qu'on lit beaucoup de choses, mais il y a plein de trucs, des sondages Facebook, genre es-tu hypersensible ? Et t'as 4 questions et tu dis t'es surdoué même, t'es un truc de ouf.
C'est un sujet qui est pas mal traité en ce moment.
Tu es surdoué, hypersensible, tu es un zèbre, t'es genre.
Voilà, on sait plus trop où on est là.
Tu es INTP.
Alors moi, je parle tout le temps de ma propre hypersensibilité parce que j'évite de parler celle des autres. Donc moi, c'est une pensée en arborescence. Voilà, une idée qui en amène une deuxième, qui ça part un peu en feu d'artifice. J'ai une hyperesthésie, c'est-à-dire tous les sens qui sont un peu au taquet. La vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, ce qui fait que...
Une voiture qui klaxonne, ça fait mal.
C'est un cauchemar. Quelqu'un qui mâche à côté de moi, c'est un problème. Une odeur trop forte dans le métro, c'est insupportable. Bon, bref, ce genre de choses.
Mm-hmm.
L'intuition, forte intuition, ce qui fait que... On se rend compte pour la première fois, boum, il y a plein d'informations que je capte. et que j'analyse très rapidement. Donc je me dis, ah bah ok, ça va le faire avec Rosa, parce que je sens qu'elle a une façon de répondre très cash, elle est en même temps très ouverte d'esprit. Enfin, bon, tu vois, tout de suite, ça me permet d'établir un profil rapide de la personne. Et puis, il y a une surempathie. La surempathie, c'est ce besoin de porter secours à tout le monde, même ceux qui n'en ont pas vraiment besoin, tu vois. Et puis voilà. Et puis après, il y a un petit problème d'estime de soi et de légitimité un peu constante. Voilà, en gros, mon profil d'hypersensible.
Est-ce que je peux te demander ton âge ?
52.
52. À quelle heure tu t'es rendu compte que tu étais
hyper sensible ? C'est très récent.
C'était à 45 ans et il devait être 16h40.
Donc, t'as eu quand même 25 ans de vie active adulte dans le monde à ne pas savoir ce qui n'allait pas.
C'était tout le problème. Parce que je sentais que j'étais un garçon différent, qui avait des réactions différentes, voire parfois disproportionnées. Mais je ne comprenais pas mon état. Je pensais même que j'étais le seul à être comme ça. Ce qui fait que ça a été un soulagement de dingue quand j'ai découvert dans des bouquins que l'hypersensibilité avait été mise à jour il y a à peu près 25 ans et qu'en fait, on était presque un tiers de la population. Donc, gros soulagement.
Qu'est-ce que c'est que ce diagnostic ? C'est quoi ? C'est un psy, un psychiatre, un psychologue, un livre ?
C'est un livre, ouais. En fait, c'est une copine qui me dit « Tu ne serais pas hypersensible ?» Et moi, j'ai tout de suite le cliché de l'hypersensibilité, c'est-à-dire hyperémotivité ou fragilité, voire féminité. Et moi, je lui dis « Bah non, rien de tout ça. » Et puis, en fait, elle me dit « Non, non, c'est une fausse idée que tu as. Lis tel bouquin, Je pense trop, de Christelle Petit-Collin, en l'occurrence. » Et là, boum ! Une révélation. C'est-à-dire que je découvre que je suis effectivement hypersensible, mais que non seulement je le suis, mais ma fille l'est, qui est aujourd'hui à 16 ans, que mes parents l'étaient, que mes sœurs le sont. Enfin bon, bref, tout mon entourage, voire mes meilleurs potes. Bref, une grosse mafia d'hypersensibles autour de moi.
C'est un truc... Est-ce que les artistes se réfugient... Enfin, est-ce que les hypersensibles se réfugient plus facilement dans l'artisme, du coup ?
Ouais, effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup dans notre profession, mais il y en a aussi mais dans tous les métiers. C'est ça qui est assez étonnant. C'est que tu peux croiser un chauffeur de taxi qui se dit hypersensible parce que tout d'un coup, il t'a entendu à la radio et le mec, tu sens qu'il l'est à fond. Ça peut être un videur de boîte, ça peut être un flic. Moi, j'ai des flics qui m'ont contacté sur Insta pour parler de leur hypersensibilité. Je trouvais ça assez étonnant dans toutes les professions.
Rosa ? Est-ce que tu te reconnais là-dedans ?
Waouh, c'est incroyable ! Ouais, c'est... Mais c'est bien que toi, t'es entourée d'hypersensibles. Moi, je pense que ma mère l'est aussi, mais mon père, pas du tout. Je me dis, est-ce que le problème de l'hypersensibilité, c'est pas l'hypersensibilité, mais la confrontation avec des personnes qui ne le sont pas du tout ? Parce que c'est
une bonne approche.
C'est aussi ça, parfois...
Que ça frotte.
Ouais, ça frotte. mais oui, je me suis un peu reconnue. Pas dans l'empathie, je pense que je suis profondément individualiste. Vous m'avez cru immédiatement.
On t'écoutait attentivement, surtout.
On était tous les trois.
Mais tu vois, pourquoi pas, on accepte la proposition.
Oui, non, en tout cas, quand tu parlais, je me disais peut-être que... Il y a beaucoup de projections et beaucoup de... Là où ça entraîne peut-être des angoisses. Et je me dis, ah, mais est-ce qu'il a pensé ça ? Ou est-ce que j'ai eu tort ? Ou peut-être que là, j'étais stressante. Mais ça, est-ce que c'était assez bien pour lui ? Et ah, peut-être que j'aurais dû faire ça. Ce truc de...
Manque d'estime de soi aussi, là. Pour le coup, manque de confiance en soi pour dire, non, mais attends, tout va bien. Tout, c'est cool.
Et de culpabilité.
Et oui. Ouais, culpabilité.
C'est quoi la pensée en arborescence ?
C'est que...
Ta pensée en arborescence.
La mienne.
C'est ça qui m'intéresse. On voit à peu près ce que c'est, mais
je te donne celle, par exemple, que je donne en spectacle. C'est-à-dire, je m'achète un calepin le matin pour noter des trucs que je dois faire dans la journée. Et en notant les choses que je dois faire dans la journée, parce que j'ai pas très bonne mémoire, là, tout d'un coup, j'ai une idée de scénar qui me vient à l'esprit. Un homme qui tombe amoureux de son chien. Bon, par exemple, boum. Et là, tout d'un coup, le chien me donne l'envie d'avoir un chien. Donc je me dis, putain, je prendrais bien un chien à Paris. Et puis après, je me dis, non, c'est pas possible, il faut le sortir 4 fois par jour, c'est la galère. Puis il y a suffisamment de chiens à Paris, comme il y a suffisamment de chiens dans le monde, comme il y a suffisamment de vaches dans le monde. Donc du coup, ça libère du méthane dans l'atmosphère. Et en fait, c'est ça, la pensée en arborescence, tu parles d'un calepin et t'arrives au réchauffement climatique en l'espace de 2 secondes.
Ou sinon, tu le jettes parce que tu te rends compte que ton calepin, il est fait avec des arbres qu'on a tué.
Exactement. Parce que jamais dû l'acheter. On est bien d'accord.
Tu peux plus rien noter, c'est la merde.
Moi, j'aurais dit, c'est une conversation aussi avec ma grand-mère qui me parle et qui ouvre les portes dans tous les sens.
Exactement, mais ouais, bien sûr, évidemment que...
Ta mère qui est DJ dans le dancehall, c'est pour ça.
Comment on fait quand on est hypersensible.
Pour vivre bah au
ouais.
quotidien.
Bah ouais. Parce qu'on peut pas baisser le bruit des klaxons. Non. On peut pas éteindre sa pensée arborescente. Mm. On ne peut pas ne pas être un peu plus susceptible que les autres ou ressentir des choses. Est-ce que le savoir, c'est prévenir?
Ouais. Ouais. Exactement. Ouais. Il faut vivre avec. C'est-à-dire, il faut pas lutter contre son hypersensibilité, parce que l'hypersensibilité en soi, c'est plutôt une qualité. Mmh. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est les béquilles que tu te crées pour supporter cette hypersensibilité. C'est-à-dire que le fait, par exemple, que je suis un garçon qui a un peu de mal à être en société, si tu veux, j'arrive dans une soirée, mais il y a trop d'infos pour moi. Donc, je vais très vite me sentir un tout petit peu pas ma place. Donc, le premier réflexe que je vais faire, c'est essayer de me barrer le plus vite possible.
Putain,
tu vois. Et donc,
je vois très très bien.
Donc, moi, qu'est-ce que j'essaye de faire? C'est, ben, je me dis, ah ben non, ok, il y a trop de monde en fait, donc je vais aller plutôt dans la cuisine, ou alors je vais aller sur le balcon. Il y a moins de monde, il y a moins de musique, il y a moins d'odeur, et là, ça va me paraître plus supportable. Donc, en fait, c'est ça.
Mais tu sais qu'il y a plus d'informations.
Oui. Parce qu'avant, je ne savais pas.
Avant, t'avais juste envie de partir.
Voilà. Avant, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer parce que je me disais, ça va pas le faire, je ne suis pas à l'aise. Maintenant, je sais pourquoi je ne suis pas à l'aise, donc j'essaye de rester. Mais de trouver un endroit dans cette soirée où je vais mieux vivre cette soirée. Et je vais peut-être prendre 3 personnes avec qui discuter plutôt que de discuter avec 25 personnes.
Donc les backrooms, beaucoup les backrooms.
Les backrooms, évidemment, les chiottes, enfin, tout ce qui est
intime. C'est pas le spectre de l'autisme, justement, cette idée de...
Ah, mais, ouais. On est cousins.
Ouais.
Bien sûr. Avec les autistes Asperger, il y a plein de passerelles entre l'hypersensibilité et les Asperger. Bon, moi, je pense que j'ai des TSA, des troubles du spectre autistique chez moi, ça c'est clair. Mais je vis avec.
Et t'arrives à pas trop te fâcher, parce que moi, c'est vrai que les bruits, parfois, les odeurs peuvent me rendre folle, mais je deviens assez colérique, et notamment au cinéma, si j'entends quelqu'un mâcher du pop-corn derrière moi.
C'est ça.
Voilà. Et là, je vais être cette personne qui fait chut.
Ouais.
Tu vois.
Ouais. Non, mais moi je fais pire.
Il y a tous
pire.
Les autres hypersensibles qui supportent pas ton
chut. Ah, c'est ça.
Ils se mettent à faire chut. Et là, arrêtez de faire chut. Jamais. C'est très compliqué à lui.
Mais parfois, il y a des gens qui m'applaudissent aussi et qui me remercient.
Merci, madame. Ouais, merci
oui.
de le dire.
C'est vrai.
Merci,
merci de chucher haut.
Ouais.
Tout ce qu'on pense tout bas.
Ouais, c'est super.
Moi, je grille les étapes. C'est-à-dire, plutôt que de dire à la personne, s'il vous plaît, monsieur, vous pourriez arrêter.
Je rentre chez moi.
Je passe à l'étape supérieure en lui disant, je vous donne 10 secondes pour terminer votre popcorn. C'est-à-dire, je suis déjà dans la menace absolue.
Carrément. Ah ouais. Mais parce que tu ressens une colère.
Ah, mais je ressens un énervement absolu.
Pareil.
Et c'est-à-dire que le gars n'y peut rien. Il est content, il est au cinoche, il demande du popcorn.
Il vend du popcorn. Il vend du popcorn. Acheter, ça sent bon.
Et ça fait partie.
Il se dit, j'ai 200 euros, je peux m'acheter un petit truc de popcorn.
Exactement.
Ouais,
et ça fait partie
grammes,
du plaisir. Sauf que moi, c'est vrai que je suis là-dessus. Ça m'empêche de voir le film, quoi.
Pareil. Moi, je deviens méchante. La dernière fois que j'engueulais, c'était des petites nanas. Je suis allée voir Titane. Tu vois, c'était dans un cinéma du quartier latin. Puis je crois que j'ai eu une remarque hyper snob. Tu vois, elles bouffaient leur pop-corn. Et je leur fais, écoute, là, on va voir un film qui a eu la palme d'or dans un cinéma du quartier latin. Alors arrêtez avec le pop-corn, quoi.
Merci de manger du caviar de gauche, s'il vous plaît.
Mais c'est vrai, on était 5, tu vois. Le film venait de sortir. Moi, j'étais prête pour mon expérience transcendantale. Et t'avais. C'était insupportable.
Mais alors, permettez-moi de mettre les pieds dans le plat, mais.
Ah, vas-y.
Je mets les pieds dans le plat.
Vas-y.
Il y a un plat.
Okay.
Il y a un pied gauche, un pied droit. Okay, les deux pieds sont dedans. Est-ce que vous êtes un peu des chieurs?
Oui, forcément.
Je dis pas, je m'exclus pas. Hein.
Non, mais bien sûr qu'on
mais
est.
Mais votre
des...
pensée est une pensée un peu chieure.
Ben ouais. Mais tout le problème, c'est d'expliquer qu'on n'est pas casse-couilles de façon gratuite.
D'accord.
Mais on est casse-couilles parce qu'on a des bonnes excuses. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un côté casse-couilles chez l'hypersensible. Après, je me bats un peu contre. Les gens qui ont tendance à dire que l'hypersensibilité actuellement est à la mode et qu'en fait c'est ni plus ni moins légitimer les casse-couilles. Là, j'ai envie de dire attention parce
non,
que
non, j'ai pas dit ça.
Non, je non, réponds
non,
à deux
je
trois.
Je vois très bien le terrain, c'est un terrain glissant que vous m'emmenez, Maurice Barthélémy. Je n'ai pas dit ça. On peut revoir d'ailleurs les bobines.
Pourquoi je dis ça? Parce que pour certains et certaines, l'hypersensibilité c'est vraiment un truc très compliqué
c'est
à vivre qui
handicap.
Peut aller vers la dépression.
Un léger handicap.
Et donc donc ça peut être sérieux.
Et c'est ton cerveau qui que tu n'arrives pas à contrôler, alors que c'est lui qui est censé contrôler les émotions, contrôler les choses. D'accord.
C'est un cerveau qui se met en place dès 6 heures du matin, et comme c'était le cas ce matin, et brum, et là tu ne t'arrêtes plus.
Je suis, je sais pas si je suis hypersensible, je sais pas, je suis pas.
Oh, moi
je
suis, moi. j'en suis certain aussi.
Alors qu'est-ce que t'en penses?
Oui, tu es hypersensible.
Quand je mange du popcorn, j'ai peur de déranger les gens, donc je mange du popcorn comme ça.
Bah c'est bien. C'est bien, mais c'est ça, l'empathie, c'est génial.
C'est tellement ça, l'hypersensibilité.
Et après, j'ai une sorte de vieux truc mou, dégueulasse, pas croquant, parce que complètement humide à cause de la salive.
Tu suces ton popcorn.
Non, mais moi, je l'ai compris, même dans Bref, que tu étais hypersensible. Ah bon? Parce que le rythme que tu donnais à Bref, la façon que tu avais d'aborder tous les détails, c'était pour moi de l'hypersensibilité. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute.
Qui suis entouré de nombreux hypersensibles dont tu fais partie, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça énerve autant, par exemple le pop-corn au cinéma, c'est que l'inverse est vrai. C'est que comme tu te dis que ça va déranger les autres, tu te restreins un peu pour pas faire de bruit, et tu trouves ça encore plus injuste. Mm-hmm. C'est un peu comme quelqu'un qui te double dans la queue alors que tu faisais la queue.
Exactement.
Toi, t'as voulu que tout se passe bien et que tout le monde soit... que tout soit équitable, et quelqu'un gâche le... Et ça réveille vachement l'hypersensibilité. L'égoïsme de l'autre, quand toi, t'es en train d'essayer de tout faire pour bien faire et pas déranger, ça te fout le seum, en fait.
L'injustice.
Ouais, c'est une injustice dans la société. Oui. En fait.
Principe d'injustice.
Ça, pour le coup, t'es hypersensible à ça.
Ah oui, bah, ça, moi, c'est le facteur numéro un de mes colères intérieures.
Ouais. Quelqu'un qui parle un peu mal, vu que toi, tu te permets jamais de parler mal à quelqu'un, tu le vis encore plus mal, parce qu'à la limite, s'ils traînent entre eux, qu'ils se parlent tous mal, bon, bah, ils sont bien dans leur monde. Et je pense que ce monde et cette société n'est pas faite pour les hypersensibles.
Toi, t'es pas hypersensible, Navo?
Non, pas trop, non. Non, je dirais pas ça.
Il
non,
est profondément sensible.
Non, parce que justement...
Il est très sensible, mais il est pas, je sais pas s'il est hypersensible, mais il est très sensible.
Je pense que c'est ça.
Donc, il a l'air d'être un mur, mais il est très sensible.
C'est ça. Ah non, mais c'est... ne pas être hypersensible, c'est pas avoir aucune sensibilité. Non,
j'imagine, mais...
Le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Mais est-ce que...
Sinon quoi?
Je pense que le monde n'est pas tout noir ou tout blanc.
Monde.
C'est trop binaire, tu polarises.
C'est la fin de cette émission. Est-ce que le monde est tout noir ou tout blanc? On a eu la réponse.
Non, ça, voilà. Il y a du gris.
Abonnez-vous au
ça
podcast.
Serait bien, un podcast qui s'appellerait gris lieu commun.
Lieu commun.
Et pendant 20 minutes, ce n'est que des lieux communs.
Communément vôtre. Je pense que ça rejoint ce dont parlait Maurice, puisqu'effectivement, il y a des gens qui vont dire qu'ils sont hypersensibles parce que c'est à la mode. Je ne veux pas rentrer dans cette mode de j'ai coché deux cases dans,
Facebook.
Dans le dernier télé loisirs. Et en fait, ça y est, ils m'ont dit que j'étais hypersensible, je suis hypersensible. Je vois bien ce que c'est un hypersensible. Tout le monde a plus ou moins de sensibilité, je peux en avoir, mais ce n'est pas de l'hypersensibilité.
Oui, mais tu sais, on a donné ce nom-là qui, je trouve, n'est pas tout à fait approprié. C'est-à-dire que les Américains appellent ça de la haute sensibilité. Mmh. Et je trouve que c'est mieux, parce que hypersensibilité, il y a un côté too much d'emblée.
Un peu Superman.
Alors, soit certains considèrent que c'est un truc genre super pouvoir que je trouve complètement con, soit c'est un truc qui est trop.
Cap.
Et je trouve que haute sensibilité, c'est plus... voilà. Et j'ai l'impression qu'autour de cette table, il y en a pas mal qui sont haut sensibles.
Comment...
voire même 4 sur 4. Mais bon, après, c'est...
Quelles sont les clés pour détecter ça? Quels sont les indices dans la vie où on se dit, mais c'est plusieurs fois qu'on me dit que je suis relou, plusieurs fois qu'on me dit que machin, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est les gens le problème? Est-ce que je dois rester tout seul? Quelle est la clé, une des clés en tout cas?
Ah, ça, c'est toujours compliqué pour moi de donner des clés parce que je me place tout le temps dans celui qui témoigne et qui ne donne pas de clés.
Ouais.
Donc, voilà. Donc,
quels ont été des indices pour toi de détecter ça?
Ça a été déjà ce problème de légitimité qui était constant chez moi. C'est-à-dire que même après avoir fait 2-3 trucs dans ma vie, je me suis toujours posé la question de savoir ce que je foutais là. Donc, une sorte de syndrome de l'imposteur. Tu vois, où tu te dis, OK, c'est un peu le hasard si je suis là, finalement, c'est cool, ça, j'en profite, mais je ne mérite pas vraiment. Donc déjà, ce sentiment-là d'être là sans raison. Et puis ça s'accompagne aussi d'un syndrome de l'infirmier, c'est-à-dire besoin d'aider les autres en permanence. Et ça, tu y passes beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les autres te prennent énormément d'énergie.
Tu n'as pas 100 balles, s'il te plaît. Je suis en galère.
Et donc, les deux réunis, au bout d'un moment, tu te rends compte que ça te prend une énergie de ouf. Parce que tu es sans arrêt en train de te dire « je ne suis pas à ma place » et où j'essaye d'être sauver les autres. Et donc, tu te disperses. Et moi, au bout d'un moment, j'étais tellement dispersé que je me suis dit, il y a un souci dans ma vie, quoi. J'arrive pas à trouver un sens. Voilà, j'étais un peu... voilà. Et puis, ça a été finalement un petit déclic chez moi de me dire, il faut que je comprenne mieux qui je suis, quoi. Mais c'est très diffus, hein, ce sentiment de l'hypersensibilité. C'est pas un truc où tu... voilà, c'est un nombre infini de détails.
50, donc, sinon je peux me débrouiller avec 50.
50, va pour 50. Donc, ma réponse n'est pas très concrète, mais parce qu'on a un cerveau qui ne l'est pas du tout.
Toi, Rosa, c'est quoi tes clés pour détecter qu'il y a un décalage?
Alors, moi, je crois que je l'ai détecté assez jeune. Quand j'avais 12 ans, je suis tombée super amoureuse d'un garçon. Et on était dans la même colo. Et ensuite, on est reparti en colo ensemble. Enfin, je lui ai demandé s'il voulait bien sortir avec moi. Il a dit oui. Donc, en fait, pendant un an avant de retourner dans la colo, on allait au cinéma. Puis, il y a eu la colo, il y a eu le premier baiser. Puis, moi, j'étais vraiment très heureuse.
C'est une autre époque, hein. Un an avant le premier
Ah ouais, non, c'était pas les mecs que je jouais ken, hein. J'avais 12 ans.
Les mecs que je vais embrasser dans un an.
C'est ça. Et en fait, il m'a quittée. Bon, mais alors, donc, j'avais pas encore 13 ans. Ouais, parce qu'il voulait qu'on soit amis, parce que c'était un mec, enfin, tu vois qu'il n'était pas. Et moi, j'ai été submergée par une peine immense. Et ensuite, j'ai pas voulu finir la colo. J'ai voulu rester dans mon lit à pleurer. Et en fait, autour de moi, il y avait tous mes amis et même les monos, donc qui étaient des gens qui avaient 15, 16, 20 ans, qui me disaient, mais enfin, te prends pas la tête, ou ça va, ou c'est rien, ou pleure aujourd'hui, mais demain ça va mieux. Ils se disaient, bon, elle pleure aujourd'hui, puis demain ça devait aller mieux, puis le lendemain ça devait aller mieux. Puis quand ils ont vu autour de moi, j'ai senti un décalage entre la peine que je ressentais qui durait et le monde autour qui avait l'air de se remettre de chagrin beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement. Et je me suis dit, ah bon, bah, j'ai l'impression que c'est plus haut, voilà, chez moi. Alors après, je sais pas si c'est particulièrement lié à l'hypersensibilité ou si c'est du romantisme. Mais c'est quelque chose que j'ai pu aussi remarquer après dans ma vie, chez les hommes comme chez les femmes, le fait d'avoir une faculté à couper ou à pas autant s'attacher ou à pas surinvestir, voilà, les relations amoureuses ou amicales. Alors que pour moi, ça peut prendre une ampleur et même ça peut me plonger dans des états...
Encore aujourd'hui ?
Ah ouais.
Moi, je suis bloqué sur le fait que les monos avaient 15 ans alors que tu avais 13 ans.
Oui, il y avait des monos super jeunes. Non, peut-être pas 15 ans.
C'est quand même, l'écart est pas ouf, quoi. T'avais 15 ans et 13 ans.
Bah ouais.
Le mono, il fait, tu files dans ta chambre. Fait, ça va, on se à la rentrée quand même. On est dans le même collège. Respire.
Ouais, d'accord, t'as raison. Eh bien, on fait un fou.
Non, mais ouais, ils avaient tous l'air de prendre ça plus à la cool, quoi. Et c'est vrai que ce sentiment, peut-être que t'as l'impression de ne pas être cool, quoi. T'as l'impression de ne pas avoir cette espèce de distance cool. T'as l'impression de... Et oui, et en plus, et en effet, ça peut se perpétuer dans le corps. Tu disais la perte de cheveux. Moi, en mai dernier, je crois que je suis tombée vraiment aussi... J'avais vécu seule 4 mois dans une maison pour écrire et je suis revenue à la vie et j'ai recouché avec un mec. Et je pensais justement que je pouvais être cette meuf cool qui couche avec un mec, tout se passe bien. Non, en fait, genre, j'ai eu un...
Le sida. Wow.
J'ai eu des cristaux et de l'hydrops, en fait. J'ai perdu le...
Ah,
ouais, j'ai perdu...
C'est quoi et des quoi ?
Bah, en fait, j'ai eu le vertige, j'ai perdu l'équilibre.
Ah oui.
Après ?
Bah, en fait, je me suis tout de suite vraiment attachée à la personne.
Ah, d'accord.
Et puis, en fait, c'était pas réciproque, mais c'est pas grave. Tu vois, c'est aussi, il y a des gens pour qui c'est peut-être moins intense, la vie, quoi. Et sauf que moi, en fait, peut-être de ce retour comme ça, post-confinement à la vie.
À la vie sexuelle.
À la vie sexuelle. Et bah, en fait, mon corps, il a bugué, quoi.
Il a pris un choc.
Et ça a pris du temps pour te remettre ?
Ah oui, oui.
C'est quoi, les cristaux ?
Bah, c'est...
C'est dans l'oreille interne qui te, ça te fausse l'équilibre. C'est un truc assez étrange. Ouais.
On doit faire un truc. On te prend, on te fait gauche, droite, ça remet la bille. Après, t'arrêtes d'avoir la tête qui tourne pour rien.
Ouais, c'est un truc.
Tu vas voir un kiné qui te fait la kiné vestibulaire.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Tu prends des cortisoïdes.
C'est comme les jeux là où on fait bouger la bille à l'intérieur des trucs. Là, c'est la même chose. Tu vois, juste un mec.
Sauf que lui, là, il voit pas la bille. Donc il dit, attends, t'inquiète, je maîtrise. Ça.
Putain, c'est fou. J'avais même pas que ça existait.
Et puis moi, quand j'ai eu ça, je me suis dit, ah bon, j'ai dû mettre un écouteur trop fort. Il y a pas de. Puis tous les vrais. Les médecins, les scientifiques que j'ai rencontrés disaient, non, c'est psychologique. Et puis au fur et à mesure, tous les gens. À qui j'en parlais et me disais oui, c'est suite à une rupture, voilà. Ou parfois, en effet, il y avait beaucoup de gens. Et le problème, c'est qu'ensuite, quand ça se déclare une fois, ensuite, ça part pas vraiment, ça reste dans ta vie, ça peut revenir de façon chronique. Donc, si tu as du stress, tu as l'oreille qui se bouge dans la nuit, ou voilà, des trucs quand même assez.
Ça t'a stressé par la suite ? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit, tiens, une fois que j'ai eu une réaction tellement forte que là, il faut que je fasse gaffe ?
À la fois, oui, et à la fois, j'ai l'impression que mon corps est aussi mon ami, c'est-à-dire que mon corps me disait en fait. Fais attention, tu vois, parce que derrière, il y a toutes nous qui devons suivre là où tu t'engages, où tu nous emmènes. Et que résultat, quand j'ai dans la nuit, parfois, de l'oreille qui se bouche, où je me dis, c'est un peu une alerte de tranquille, tu vois, aussi. Le corps te dit doucement. Et oui. J'ai acheté une couverture lestée de 11 kilos pour réduire l'anxiété aussi.
C'est quoi ça ? Ouais. C'est quoi cette...
C'est des couvertures suédoises.
Qui sont lourdes.
Et c'est censé t'apaiser. Et moi, je trouve que ça m'apaise énormément.
C'est incroyable. Ah bon? J'avais lu à un moment donné que les autistes, on les enveloppait justement pour qu'ils aient un sentiment d'unicité.
En
mailloté, ça
un peu comme les bébés qu'on emmailloté.
C'est ça, exactement, comme les bébés.
Il ne faut pas le faire.
Apparemment, avec les bébés, il ne faut pas le faire, a priori. C'était une erreur qu'on faisait.
Ah
ouais, ça devait.
J'ai un coup de fil à passer.
Allô? Emmailloté.com.
J'adore dormir avec du poids sur moi.
Voilà.
Ouais, moi aussi.
Ah ouais,
Moi, je peux dormir avec quelqu'un sur moi. Je peux dire, viens là.
Non, mais vraiment, c'est hyper important.
Mais je découvre quelque chose, les amis, là.
C'est-à-dire que le fait d'avoir du poids sur moi, c'est psychologique. C'est-à-dire, c'est de la chaleur. Alors que tu peux mettre une couverture qui n'est pas chaude. Sauf que j'ai besoin d'avoir du poids pour me dire, ah, ça y est, je vais pouvoir dormir.
En fait, tu rentres en contact avec quelque chose, clairement.
Ouais, et puis je crois que ça me sécurise, quoi, tout simplement. Et ça m'apporte, une chaleur naturelle, puisque mon corps, finalement, l'air de rien, diffuse une chaleur qui est constante. Et donc, du coup, ça m'aide à m'endormir. Mais j'aime pas trop dormir juste avec un drap, même s'il fait chaud.
Pareil.
Mais c'est comme les gens qui aiment bien qu'on les reborde. Tu vois, tu te mets dans le lit.
Oui.
Et tu tires la couverture.
C'est incroyable, ça. C'est génial.
Je suis bien coincé dans mon
film, ça.
Ouais. Bien sûr. Ça peut rappeler peut-être inconsciemment la sensation dans l'utérus de la mère.
Ah ouais, carrément.
Peut-être, je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Tu sais, quand t'es bébé et que t'es comme ça, oui.
Je pense que ma mère avait un énorme utérus. Je pense pas que c'est ça.
Un édredon. Ouais, ta mère, elle avait un énorme utérus.
Elle
est très connue pour ça.
On l'appelait gros utérus.
Les images.
Martine gros utérus. Martine utérus d'ailleurs.
Alors maintenant que on a passé les clés pour détecter son hypersensibilité, quelles sont les clés pour
vivre?
Moi, j'aimerais
bien savoir ce qui a motivé Maurice à faire un livre et un spectacle.
Qu'est-ce qui t'a motivé?
C'était quoi? T'avais envie
d'aider ton syndrome de l'infirmière?
Des personnes vivent la même épiphanie que toi?
Écoute,
de transmettre.
Ça s'est fait un peu par hasard. J'étais en Espagne parce que j'ai eu une partie de l'année en Espagne et j'étais tout seul dans ma maison pendant les confinements. Merci pour le web.
Waouh, yes,
je vais te les photos de la maison.
De pays le plus riche.
Et donc, je m'ennuyais terriblement tout seul dans mon confinement. Et puis, j'ai fait un live sur Insta avec la personne avec qui j'ai écrit le bouquin, qui est Charlotte Wills, qui est une thérapeute. Et
si ça t'embête pas, je veux bien savoir déjà le bouquin.
Ouais, fort comme un hypersensible.
Pourquoi le bouquin déjà?
Non, non, pardon. Je fais ce live avec Charlotte.
C'est moi qui me suis demandé pourquoi le spectacle.
Ouais.
Mais je voulais d'abord savoir pourquoi le bouquin.
Voilà. Et alors j'y viens. En fait, pendant ce live, je fais un pendant ce confinement, je fais un live avec Charlotte Wills, qui était ma thérapeute avec qui j'avais travaillé sur l'hypersensibilité.
Ah, on est avant le bouquin, d'accord.
Avant le bouquin. Et donc on fait ce live et il y a pas mal de retours parce que l'hypersensibilité quand même parle à pas mal de gens. Et je suis contacté par les éditions Michel Lafond qui me disent nous, on aimerait avoir le témoignage d'un mec qui assume son hypersensibilité. Est-ce que ça vous dit d'écrire quelque chose là-dessus? Et moi, je dis, ah non, je ne veux pas écrire, je me sens
pas légitime.
Non, ouais, non,
mais c'est payé tant. Alors bougez pas.
Je reviens.
C'est la blague de Woody Allen. Je vous passe Maurice Barthélémy.
J'ai accepté, mais que ça se soit sous forme d'entretien. Et donc, avec une auteure qui s'appelle Bessora, on a fonctionné par Zoom pendant tout le confinement, où une fois par semaine, elle me posait des questions et je répondais. Et au final, elle a synthétisé tous ses entretiens en un bouquin. Et après, Charlotte Wills, avec qui j'avais fait le live, est intervenue dans le bouquin pour apporter des points généraux sur l'hypersensibilité. Donc voilà comment le bouquin est né. C'était un peu du hasard. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas au départ une volonté d'écrire sur l'hypersensibilité ou d'en parler autant.
Et c'est parce qu'il y avait quelqu'un de Michel Lafond sur ton live?
Oui, c'est ça.
Incroyable.
Qui a écouté le live. Et après, quand le bouquin est sorti,
il a couru jusqu'à une cabine téléphonique. Toi qui cherches un hypersensible, écoute-moi ça, on le tient.
C'est ça. Et on en a trouvé un.
C'est une cabine téléphonique.
Parce que je voulais courir dans la cabine.
Très rare.
On signe.
Et quand le bouquin est sorti, c'est-à-dire en janvier dernier, on était au creux entre deux confinements, il n'y avait pas de promo, etc. Et moi, j'ai eu une promo de dingue. Et le bouquin a eu un écho certain.
Super,
et ce qui fait que, on en parle librement aujourd'hui. Il y a plein de gens qui font leur coming out. Et c'est chouette, je trouve ça cool. Et donc, j'ai voulu continuer l'expérience après sur scène. Mais je ne sais plus quelle était ta question.
C'était ça.
La genèse,
c'était ça.
Et alors, quand on est hypersensible, quand on doit être sujet au trac, est-ce qu'on n'est pas un trac fois 1000?
Rosa.
Oui, je suis très traqueuse, mais bon, ça, j'ai l'impression que avec les cours de théâtre et tu passes, t'apprends, c'est une technique, quoi.
Avec l'expérience, tu veux
avec
dire.
Avec l'expérience.
Mais aujourd'hui, quand t'es toute seule, tu vas jouer. Là, tu joues la nouvelle scène. On est vendredi soir. T'as passé une journée, pas ouf parce que tu savais que t'allais le jouer le soir. Donc, tu t'es un peu réservé. Puis, tu montes sur scène, t'es toute seule.
Cet après-midi, vers 16h, il y a ta sœur qui t'a appelé, qui t'a dit écoute, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Puis, vers 17h, t'as eu un petit creux, t'as mangé. Ouais, est-ce que j'ai 15. Pas trop mangé pour.
Voilà. Alors,
pas que non, je mange trop avant de monter sur scène.
J'ai un trac d'excitation. Si, oui, moi, je suis boulimique. J'ai un rapport très émotionnel à la nourriture, ouais. Je mange.
Tu manges pour calmer ton stress.
Je mange, puis j'arrive plus à m'arrêter de manger.
Mais avant de rentrer sur scène.
Non, pas avant de rentrer sur scène. Mais non, avant. En fait, par rapport à la scène.
Avant de vomir sur scène.
Ouais. Une fois, c'est ça m'est arrivé de vomir avant de monter sur scène. Ouais. La première fois que j'ai joué.
Jacques Brel.
Ouais, c'était la première fois que j'ai joué au théâtre de l'Odéon dans un Peter Stein. Et alors, c'était vraiment incroyable parce qu'il y avait donc mon habilleuse. Bon, à l'époque, c'était des conditions un peu luxe. Et je sais pas pourquoi elle devait s'en douter, mais j'étais comme ça avant et puis j'ai fait et elle avait un seau, tu sais, mais comme une fée dans les dessins animés, et j'ai vomi dans son seau.
C'était clairement son sac à main. dans tes souvenirs, c'était son seau, c'était son sac à main.
Peut-être.
Ou alors c'était un seau avec déjà du vomi, et c'est juste pour ça que t'as vomi, parce qu'elle disait.
Elle passait de comédien en comédien.
Mais ou c'était le stress, ou c'était le corset qui était. Il fallait s'habituer à un corset très serré.
C'est pour ça qu'elle avait un seau. Ça va très bien. Arrivé, hein. Je serre le seau.
C'est ça, à l'ancienne.
Comment tu vis ton trac avant de sur scène?
Est-ce que t'es traqueuse déjà?
Oui, je suis traqueuse, mais je fais des techniques de respiration, je souffle. Je mets ma main sur mon ventre, je respire. Ensuite, je fais des exercices d'articulation. Je mets ma langue sur mes dents et tu sais, comme ça.
C'est quoi ça?
Bah, ça ouvre la mâchoire.
Ouais,
c'est un exercice d'articulation.
D'accord.
Pour détendre la mâchoire.
Pour détendre la mâchoire, voilà. Donc, je fais ça plein de fois. Tu connaissais pas?
Non.
Et ça aide à ouvrir. Donc, voilà, je fais j'ai des petites tics comme ça. Après, c'est vrai que j'aime bien arriver longtemps à l'avance.
Man, en fait.
Oui.
Tu faisais des exercices de respiration la dernière fois en boîte.
Ouais. Mais c'est pareil. C'est vraiment faire ça plein de fois, respirer, redire le texte 150 fois le début.
Ça, c'est un échauffement classique de comédien.
Oui,
mais
oui.
Tu n'es pas sujette au doute. Même sur scène, tu as des pensées compulsives qui te font stresser.
Si, j'ai des pensées paranoïaques sur scène.
Ça, d'accord.
Ouais, voilà, j'ai des pensées paranoïaques.
C'est intéressant, ça.
Je suis sûr qu'ils me regardent tous.
Pourquoi ils rigolent? Ils se foutent de ma gueule.
Bah non, mais je dois passer outre la crainte que tout le monde me déteste. Ouais, et ça, c'est. Je fais semblant, je joue la confiance. Mais c'est vrai que parfois, je vois des humoristes qui arrivent genre 2 minutes avant de monter sur scène. Non, moi, j'ai besoin quand même d'être là 1 heure à l'avance. Mmh. Et puis parfois, sur les regards, si quelqu'un ne rit pas ou sourit pas, faut vraiment pas que je regarde cette personne parce que ça peut beaucoup me déstabiliser.
Mais tu fais des plateaux?
Oui.
Mais du coup, quand t'es en plateau, vu que vraiment le principe du plateau, c'est qu'on est en train de parler comme ça, vraiment à un moment, quelqu'un tape sur mon épaule et dit et maintenant, bravo! Je suis là, ouais, bonsoir. Toi, tu peux faire ça du coup? Ou alors, en fait, tout le monde est en train de discuter en buvant un coup et toi, t'es là. J'ai pas encore joué. Arrêtez de me parler, les gars.
Non, en plateau, je fais semblant d'être cool avec les autres humoristes et tout, quoi.
Ok, Rosa, rigole maintenant.
Oui, c'est
super intéressant.
Quelqu'un hurle dans ma tête.
Non, en fait, souvent, parfois, j'assume que je suis pas cool. Et justement, quand les autres humoristes sont en train de faire des blagues, moi, parfois, je suis la seule à avoir imprimé mon texte avec les nouveautés et à le revoir en boucle. Et je sens qu'ils me regardent un peu comme une folle.
Elle a imprimé son texte.
Elle a imprimé son texte. Ça me fait souvent passer pour une psychopathe. Parce que quand ils veulent revoir leur texte, ils le revoient sur leur iPhone. Je sais que je le fais moins.
Ils lisent sur leur main, même.
Mais ouais. Oui, ils l'écrivent, etc. Mais j'ai vu des humoristes faire semblant, genre se noter des trucs au stylo et sur scène faire comme ça.
C'est un mec qui style les
Alors que.
Ouais, pour le coup, c'est un mec.
Et là, on utilise le petit.
C'est par Robin Williams.
Mais en fait, c'est des textes que je les avais déjà vus faire d'autres fois, tu sais, en jouant.
Alors attention, il y a un truc avec les humoristes, c'est qu'ils font semblant de dire non, je vais tester ce soir.
Ouais.
Ils vont tester, ils montent sur scène, ils voient l'ambiance d'avant, les gens qui ont rigolé et tout, ils disent non, je vais pas tester, je veux être la vedette de la soirée. C'est ce que je veux.
C'est ça.
Et toi, Maurice, tu le vis comment la scène? Est-ce que tu le vis comme un... Il y a des... Alors, on rappelle, hein, monter sur scène, c'est des moments de joie immense, mais c'est une joie immense qui s'acquiert en payant un prix parfois de trac, c'est-à-dire de se remettre en cause en permanence jusqu'à la dernière seconde avant de monter sur scène, parfois même encore sur scène. Comment toi, tu le vis?
C'est la première fois que tu montes seul sur scène?
Ouais. C'est la première fois.
Tu viens, donc les Robins des Bois.
Ouais.
Donc la troupe.
Ah, mais voilà.
Mais oui,
les
c'est
Robins
ça.
Des Bois, putain,
j'ai cru que c'était des inconnus.
Ah, je me disais, mais il me dit quelque chose, c'est hypersensible.
Écoute, moi, alors tu parles de joie immense. Moi, je ne ressens pas du tout une joie immense. C'est-à-dire, je ne le vis pas du tout mal non plus, hein, mais je ne sens pas du tout une joie immense. C'est-à-dire, je le fais un peu préoccupé dans la journée, c'est-à-dire je suis focus sur l'événement du soir, concentré sur ce qui
va se
passer.
Tu joues ce soir, par exemple.
Ouais, je joue ce soir. Donc je sais que je suis calme, je fais attention à pas me dépenser trop dans la journée, mais bon, je garde un peu d'énergie pour le soir. Mais en ressortant, on m'avait toujours dit, quand tu sors après un stand-up, t'es galvanisé, quoi. Et en fait, moi, pas du tout. Je suis complètement vidé.
T'es soulagé.
Et je suis soulagé parce que je suis content que ça s'est bien passé. Mais en revanche, j'ai pas du tout d'euphorie. Je ne suis pas du tout dans un mode où tout d'un coup, je vais me dire, ça y est, je suis le roi du monde, il y a 25 personnes dans la salle aujourd'hui. Donc, non. Donc, vraiment, ce n'est pas quelque chose qui me met dans un état d'euphorie ni de bonheur intense. C'est très étrange. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis dans un état de préoccupation toute la journée. Et même après, je me dis, OK, ça c'est fait, OK, c'est cool, les gens ont l'air contents. J'ai pris du plaisir, ça n'empêche pas, mais je ne suis pas du tout à donf.
Et demain, on remet les couverts. Donc,
On remet les couverts.
Donc, tu projettes beaucoup ?
Ouais, un peu. J'essaye de moins projeter qu'avant, parce que ça, c'est un problème d'hypersensible, de tout le temps être dans l'anticipation.
Qui est un mécanisme de la dépression.
Je ne sais pas.
Non, mais c'est un mécanisme qui t'emmène vers...
Ah, c'est possible.
Un truc, quand tu es dans un futur négatif,
ouais.
Tu génères une réalité négative et tu es dans une négativité permanente.
Alors, je ne suis pas dans la projection négative, je suis dans la projection tout court. Mmh. De me dire, je sais que demain, ça recommence. Donc, du coup, je suis de nouveau en économie. Bon, bref. Donc, au final, je suis très content de l'avoir fait. Mais je dois t'avouer que ce n'est pas quelque chose qui me met sur Mars, quoi.
Et voir les gens à la fin, les gens.
Ça me fait super plaisir.
Ça fait très plaisir.
Mais j'ai sentiment, si tu veux, je vais être très honnête avec toi, d'avoir.
Soyez très honnête.
Fait passer un message.
Ouais.
Donc d'avoir été dans une sorte de partage avec des gens durant lesquels j'ai pris un vrai plaisir, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'après, je rentre chez moi. Comme je joue à 19h, à 20h30, je bois un coup jusqu'à 21h. Et puis après, je rentre peinard. Et là, il faut que je reste un peu seul et que je me mate une série. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc assez monacal quoi, comme
expérience. En troupe, c'était la même chose ?
Non.
En troupe, ça t'énergisait ?
Ah non, en troupe, ouais. Quand je jouais avec Jean-Paul Rouve qui avait la connerie dans les yeux et qui était prêt à rire à la moindre bêtise. Donc, ouais, là, c'était, tu vois. Et puis, on était une petite secte à 6. Donc, en fait, on trouvait une énergie constante entre nous. Là, c'est un truc qui est très étonnant. C'est que je viens faire mon taf. Je suis content de l'avoir fait. J'ai passé un bon moment, mais après, voilà. Et pas de trac avant. Juste une petite appréhension que ça se passe bien, mais pas un trac qui me ferait vomir, pour le coup. Et alors qu'avant, oui. Avant, beaucoup plus. Quand j'avais 20 ans, 25 ans, ouais, j'étais malade à l'idée de monter sur scène.
Quand tu écris des scénarios, tu écris seul ?
Papa, je l'ai écrit seul. Et d'autres, non. Enfin, ça dépend. Si un sujet, tout d'un coup, je me dis, tiens, c'est un sujet pour moi tout seul, je me lance. Et puis, si tout d'un coup, il y a une structure un peu compliquée, narrative, où il va falloir maîtriser un peu plus la technique du scénario, j'hésite pas à m'associer. Ouais.
Est-ce que tu as vu Papa Rosa ?
Non.
Je te le recommande, vraiment, sincèrement.
Regarde-le maintenant.
J'ai vu les Robins.
On fait une pause, on va faire une pause, on va regarder Papa et ensuite on revient. On passe au multi-blind test. Alors, pour un hypersensible.
Quoi? Il a dit j'aime pas les bruits et tout, tu veux lui faire.
Mais justement, mais non, mais ça va être un jeu. Là, c'est dans un jeu.
D'accord.
Ça te va ou pas ? On va pas mettre trop fort.
On va partir.
C'est ça qui est paradoxal. On va essayer de tenter de voir est-ce que sous le prisme du jeu, ça passe ?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'un multi-blind test, Navo ?
Un multi-blind test consiste à écouter 6 morceaux en même temps et à trouver les morceaux qui sont dedans.
Waouh ! Alors déjà que je suis nul avec un morceau, mais alors à 6.
T'inquiète pas, tu vois, c'est un jeu assez intéressant.
Allez.
Comme tu vas focaliser ton esprit, en fait, tu vas pas subir, tu vas focaliser ton esprit. Tu
essaies de le rassurer maintenant.
Oui, mais moi,
c'est le problème maintenant.
Je suis diagnostiqué par Maurice Barthélémy, je suis hypersensible, donc maintenant.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ah, maintenant qu'il a fait son coming out hypersensible, tout le monde le prend avec des pincettes. Maurice, tout va bien aller.
Non, mais c'est vrai ce que tu dis.
Je vais juste...
C'est vrai ou pas ?
Il y a plein de gens qui me disent je peux manger le raisin à côté de toi. Je dis oui, ça fait juste 50
ans. Ça doit déclencher de l'empathie du coup.
Oui.
Les gens ont de l'empathie et plus de patience peut-être.
Alors de l'empathie, et je dois avouer une chose à cette antenne, c'est que vis-à-vis des nanas, c'est le meilleur plan pour draguer au monde.
Bah oui.
Mais de dire que t'es hypersensible, mais je te jure que c'est une mine d'or. Je n'en profite pas, mais bon.
C'était ma question. C'est, est-ce que ton hypersensible...
T'as eu l'air pourtant. Je peux te dire que ça, les meufs, ça y va. Attire l'arigot, j'en profite pas.
Mais est-ce que c'est...
Est-ce que ça... Ça fait de toi un romantique ou pas de
Non,
fait
non. Je ne suis pas quelqu'un de romantique. Non, okay. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui... à chaque fois que j'ai essayé d'être romantique, ça a été un échec absolu. Je te donne un exemple.
J'ai acheté des fleurs une fois, elle a bousillé les fleurs.
À l'époque où j'étais avec Marina Foïs, puisque j'ai été avec elle quand j'avais 20 ans à peu près, de 20 à 28.
Je l'ignorais, c'est un scoop.
Ouais. Et j'ai décidé un jour de lui offrir une bague. Et donc, j'achète une bague que je fais monter et tout. C'était un joli petit diamant. Et je lui offre, et je l'emmène un peu par surprise sur le Pont des Arts pour lui offrir. Elle a trouvé ça tellement too much que ça a été un échec absolu.
Ah. T'as trop fait, quoi. T'as l'air au-delà de Tour
Eiffel
et tout.
Je l'ai fait à la Love Actually. Et en fait, le vrai romantisme, c'est surtout pas faire des choses romantiques. Il faut réinventer.
Oui, mais t'es peut-être romantique, au vrai sens du terme.
Ouais, mais
est-ce que tu parlais de ça quand tu disais
romantique? Non, moi je parlais pas du tout de ça.
Elle a pas dit est-ce que t'es cucu la praline?
Ouais, merci, Navo.
Elle a pas dit es-tu cucu la praline? Elle dit es-tu romantique?
Moi, romantique, oui. Est-ce que tu aimes fort aussi? Est-ce que tu tombes amoureux facilement?
Bon, un plan cul au bout de 4 mois de confinement, elle est amoureuse, tu vois, c'est romantique. Elle a un idéal romantique.
Je ne tombe pas amoureux facilement. Ah. En revanche, j'ai des coups de cœur très rapides sur certaines femmes. Quoi. Tout d'un coup, boum, tu te dis, oh, cette femme est extraordinaire, je souhaiterais absolument vivre quelque chose avec elle. Mais je ne suis pas certain que ça soit de l'amour. C'est plus un coup de cœur. Quoi. Mm.
Oxmo Puccino a écrit « Artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime
». Ouais. Pas vu venir, celle-là.
C'est clair.
« Artiste, c'est pour ça qu'elle t'aime et c'est aussi pour ça qu'elle te quitte ».
Ah.
Est-ce que être hypersensible, tu dis putain, c'est fou au niveau des nanas ou de l'autre, ouais. du désir, de la personne désirée et désirable.
Désirante.
Mais je suis tout à fait d'accord avec cette approche. C'est-à-dire que je pense que ce qu'on peut voir chez moi au départ comme une qualité, on peut aussi très vite le voir comme un défaut. Donc ça peut se retourner contre moi.
D'accord.
Je te donne un exemple. Je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant. Donc au départ, dans une relation. Un mec qui n'envoie pas 36 000 textos à la meuf dès le premier soir, qui garde une petite distance, ça lui donne un petit côté assez indépendant, un peu mystérieux, etc. Bon, bah, c'est cool. Au départ, tu te dis, ouais, le mec, il fout pas une pression de ouf. Et puis, en fait, après, je continue à être comme ça. Mmh. Et là, la nana se dit, putain, merde, en fait, il n'est pas investi dans l'histoire. Mmh. Et ce n'est pas un problème d'investissement, c'est un problème de ce besoin que j'ai d'être seul, moi, et de ne pas forcément répondre tout de suite à un texto, une sollicitation, etc. Donc, ça peut être considéré comme un défaut assez rapidement.
D'accord.
C'est un exemple.
Multi-blind test ?
Multi-blind test, mon pote.
Allez, c'est parti. On va baisser un tout petit peu. La torture.
J'en faisais profiter un peu les gens, mais comme ça, tu vas pouvoir en enlever une.
Il y a du Mylène Farmer.
Ah, bien ouais. Tu peux arrêter la musique hein, et dire il y a du Mylène Farmer. Hein,
d'accord.
Ah ouais, sans contrefaçon. On les trouve à part un.
En fait, on l'enlève maintenant.
J'enlève Mylène.
D'accord.
Il n'y a plus que 5 morceaux.
Nirvana.
Nirvana. Moi-même, alors que c'est moi qui l'ai fait, je n'avais pas entendu que Nirvana.
Je l'ai pas entendu.
Ça sentait comme l'esprit d'un adolescent.
Eminem. Bien ouais,
plus que 3, ça devrait être gérable maintenant.
Adèle. Tina Turner.
Ah, oui. Tina Turner.
C'était James Bond.
GoldenEye.
Là, il en reste combien?
Il en reste deux, donc.
Je cherchais la version.
Quand il en reste deux, il faut dire les deux.
Ah.
Soit on a rien, soit on a les deux. On peut pas en dire qu'un. Sinon, on aide l'autre, celui qui va dire l'autre.
Oui. Ah. Je l'ai. J'ai les deux parce que c'est une chanson qu'on met tout le temps en début de spectacle. D'accord. On adore. C'est Lemon Tree.
Ah voilà.
C'est Fool's Garden, non?
C'est Fool's Garden.
Ah ouais, c'est et il y a I'm Feeling Good
de Nina Simone.
Eh bien, bravo. Vous avez tous gagné.
On a tous gagné. Vous savez pourquoi? C'est l'heure des cadeaux.
Parce qu'on a passé un bon moment.
Vous avez gagné. On a un petit partenaire qui s'appelle Horace qui offre des crèmes, des gels douche. Wow. C'est 100% naturel. C'est vachement bien.
J'adore. Merci beaucoup, Horace.
Papa.
Oui.
On va parler un peu de papa.
Ah, c'est ton... Ah non, ok, j'ai cru que...
Non, papa.
Je ne suis pas le père de Kian.
Il n'était pas mort, ton daron.
Je crois qu'il était mort.
Comment on écrit un film aussi fou et comment on le fait avec un mec comme Alain Chabat? Le film n'a pas l'air d'avoir de structure et il en a une tellement. Mmh. Et comment faire un film aussi fluide? C'est l'histoire d'un jeune garçon. Est-ce que c'est je peux te laisser en parler?
Ouais, bien sûr. C'est un père et son fils qui traversent la France. Et en fait, c'est une sorte de road movie. Et ils vont d'un point A à un point B. Et on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont et où est-ce qu'ils sont, surtout, parce que c'est une sorte de France un peu bizarre dans laquelle qu'ils traversent tous les deux. Et en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre deux. Il y a une sorte de secret ou de chose qui n'est pas dite. Et petit à petit, on découvre dans l'histoire que ce qui s'est passé, c'est que, eh ben, en fait, le papa a perdu un enfant. Et donc, c'est en fait un voyage au travers du deuil, quoi. Comment est-ce que l'adulte et l'enfant vivent le deuil? Voilà, en fait, c'est un film tout simple qui a été motivé parce qu'une de mes sœurs a perdu un enfant et qu'en fait, elle m'avait raconté qu'un jour, elle était en visite dans de la famille en France et que la personne qui les recevait avait demandé à ma sœur de ne pas évoquer le drame pour ne pas choquer les enfants qui étaient à table. Et ça m'avait tellement choqué, cette double peine que subissent certaines personnes qui vivent ce genre d'histoire assez compliquée, que je me suis dit, je vais écrire un film. Et ça a motivé l'écriture du scénar. Et c'est comme ça que je suis parti. Et je l'ai écrit d'un trait. Vraiment une histoire extrêmement simple et assez linéaire.
Sans t'arrêter, quoi.
Sans m'arrêter.
Jamais t'as fait un blanc?
Jamais. Seul trait. J'y suis allé d'un seul trait.
C'est impressionnant quand tu vois le scénario à un seul trait.
Ah ouais, non, c'est fou.
Ah ouais, c'est très rare. Et donc, je l'ai sorti. Et en fait, et après, les étoiles se sont bien alignées. Souvent, je constate que quand tu développes un projet qui est parfaitement en cohérence avec qui tu es et sur le moment et dans ta vie, souvent, si t'as plein d'aides qui arrivent. Et Marina a lu le scénario, Marina Foïs, et a dit à Alain Chabat, Alain, s'il te plaît, il faut que tu fasses ce film. Et c'est parce qu'il a reçu ce coup de téléphone de Marina qu'il s'est laissé convaincre. Et il y a une autre personne aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est Isabelle Nanty, qui a lu le scénario et a appelé le producteur Philippe Rousselet en lui disant, s'il te plaît, produis ce film. Et voilà, il y a deux personnes qui m'ont aidé, Marina et Nanty.
C'est-à-dire qu'elles ont tellement aimé,
oui,
qu'elles ont appelé des gens, s'il te plaît.
C'est exactement ça.
On veut le voir.
C'est ça, on veut le voir. Et il se trouve que Chabat a dit oui très rapidement. Et à partir du moment où Chabat dit oui, bah alors là, tu peux monter un film à 75 millions de dollars. Donc là, le film...
Ça a coûté 75 millions de dollars?
Ouais. Un peu moins.
Non, la bagnole est super.
Disons, grosso...
Ah, c'est une vieille Renault,
ouais,
je crois. Disons,
ouais, même de collection.
Ouais, ah, c'est d'accord. Vrai. Mais ça a coûté un peu moins cher. Et au final, le film s'est fait voilà, sur un élan, très rapidement.
Wow.
Et
film d'une heure dix.
Un film d'une heure dix, très rapide.
Une heure dix, c'est ouais, un format qui est très rare.
Très rare. Film. Et on m'a absolument, la Gaumont, on m'a pas du tout embêté pour faire le film d'une heure dix.
Et puis.
Non, je répète pas une blague.
J'ai raté la connerie, désolé.
Tu la verras au montage. C'est
tellement fasciné.
Est-ce qu'on peut faire un replay là tout de suite?
Bien sûr.
On peut faire un replay de la réaction beaucoup très disproportionnée de Rosa.
Et au final, le film s'est fait voilà, sur un élan, très rapidement.
Waouh, l'animal.
Un film d'une heure dix.
Un film d'une heure dix, très rapidement.
Ouais.
Ça me fait rire tout ce qui est lié aux animaux avec du cant sur la tête.
Ah, ok. Ouais. C'était vraiment. J'ai trouvé le bon animal.
T'es allé dans pile la niche de ce qui me rend.
J'ai essayé d'en trouver un autre.
Donc voilà, le film s'est fait et quand il est sorti, ma foi, ça s'est bien passé. Et c'est vrai que c'est un film que j'ai revu un peu par hasard dans l'avion. Il était dans la programmation d'Air France et je me suis dit, tiens, je vais revoir mon film. Et je me suis dit, oh, bah tiens, c'est cool. Si 10 ans après, on arrive à le revoir sans trop de difficultés, c'est qu'il n'a pas trop mal vieilli.
Alain est le père le plus incroyable du monde dans ce film. On l'aime d'amour dans tous les sens. Ça, c'était comment sur ce tournage? Moi, c'est juste... Alors là, c'est un fan qui parle à un gars qui a fait un super film. Là,
C'était du Chabat comme tu le connais, quoi. C'est-à-dire le gars qui est hyper détendu et qui est en même temps hyper mnésique. C'est-à-dire que Chabat est un hypersensible qui retient un texte en le lisant une fois. Donc, le mec, il n'a aucune difficulté à te dire le texte à la virgule près. Et en même temps, il était un peu en vacances, il se prenait pas la tête, c'était cool, on a tourné ça en peut-être 5 semaines, donc ça a été très rapide comme tournage.
Un mois et demi à peu près ?
Ouais, même pas, tu vois, un gros mois.
Je crois que c'était 5 semaines.
En fait. Non, mais parce que c'est pas 5 semaines collées généralement, c'est
oui, c'est ça,
jours,
un mois et demi, tu vois. Pour un road movie. Et on a tourné ça entre Montpellier et Clermont-Ferrand, tu vois, dans cette autoroute.
Vers Marseille ?
C'est
ça. Tu as des questions comme toi maintenant. Je dis autre chose que ce que le gars vient de dire. Ça se trouve, ça peut marcher, à un moment, ça peut prendre.
C'est drôle. Marseille. Ah ouais, Marseille, c'est ça. Puis, alors, ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, la fille de Chabat est venue me voir lors d'une soirée en me disant, quand on a vu le film avec ma mère, on s'est demandé comment t'avais fait pour choper notre père comme ça. Et ça a été effectivement assez étrange parce que...
Parce qu'il n'est pas du tout comme ça.
Parce que Alain, moi, je l'avais fréquenté pendant Re, mais c'était plutôt un truc de, tu vois, d'équipe, de travail, etc. Mais pas dans l'intimité de sa famille. Et elle m'a dit, on avait l'impression que t'avais foutu une caméra chez nous. Et voilà, et jamais notre père n'a été aussi bien raconté qu'au travers de ton film.
Et Marina, elle connaît mieux
maintenant.
À l'époque, elle le connaissait mieux.
Elle le connaissait un peu mieux, ouais. Parce
peut-être que, c'est pour ça qu'elle a vu
peut-être.
Chabat dans ce rôle.
Mais alors, pour te donner une petite anecdote, Chabat, 5 jours avant le tournage, m'a annoncé qu'il ne voulait pas faire le film. Ah putain, c'était chaud. Moi, j'étais en repérage à Montpellier. Je lui dis, attends, je remonte. Donc, je remonte à Paris et je viens le voir. Je lui dis, quel est le souci ? Et il me dit, je vais être incapable de jouer ce film. Et je pense que c'est parce qu'il sentait que c'était très intime. Et qu'il avait peur de cette intimité.
Il se met en danger.
Ouais. Et je lui ai dit, mais tu vas rien jouer, Alain. Tu vas juste
grand
être qui tu es.
Grand acteur comme Alain doutait à ce point.
Ouais. Et il m'a dit, et c'est là, la troisième personne qui m'a un peu sauvé sur le film, c'est Dominique Besnéa, qui était l'agent de Chabat.
Il y a le contrat, il y a le contrat.
Et qu'il l'a appelé en disant...
Ça sera 2 millions dans ta gueule, Alain.
Il a dit, il n'y a même pas qu'à que tu refuses le film. Si tu refuses, on va se fâcher. Et comme tous les deux, ils étaient très complices, Chabat a dit oui. Et finalement, ça s'est bien passé au final. Mais cette trouille a été constante jusqu'au bout pour lui, même quand il a vu le film. Quand il a vu le film, il s'est dit « Waouh, je me dévoile trop ». Je pense, hein, on n'en a jamais parlé directement. Mais je pense qu'il s'est dit « Je me dévoile trop ». Et il a eu un vrai recul de pudeur à la sortie du film, où il s'est dit « Je pense que c'est trop moi ».
Mais c'est le film où on aime Alain Chabat.
Mais
on l'aime d'amour.
Mais je pense qu'une des particularités de Chabat, c'est sa pudeur. Et là, je crois que je l'avais un peu bousculé. J'avais peut-être été un peu trop loin dans le portrait de lui-même.
Mais
c'est ma théorie.
Sans faire exprès, en plus.
Et juste, en plus, par amitié. C'est-à-dire que pour moi, comme c'est vraiment un acteur formidable, je l'avais écrit pour lui. Et surtout, Chabat, pour moi, c'était la projection du père idéal. C'est-à-dire,
tu
c'était
l'avais écrit pour lui.
Oui, j'avais écrit pour lui. Okay. Et c'était vraiment le père que j'aurais rêvé d'avoir et que j'aurais rêvé être. Donc, c'était un mélange des deux, tu vois. Et donc, c'était pour moi un peu un hommage à Chabat, ce film. Ouais. Pardon, j'ai coupé ta question.
Ah non, c'était pas une question, c'est non. Parce que du coup, j'arrivais plus à faire le... Moi, je suis le relou, moi, je suis l'avocat de la défense. Attends, je comprends rien, tu l'écris. Après, Marina a dit à Alain, c'est trop toi. Et en fait, quand tu l'as écrit, c'était déjà Alain.
Oui, non, mais c'est parce que j'avais dit à Marina, je rêverais que ça soit Chabat qui le fasse. Et j'osais pas lui demander.
Et vous vous êtes fréquenté pourtant à l'époque de la grosse émission, tout ça, vous êtes croisé plusieurs fois.
Avec Chabat ?
Oui.
Bah, et puis
Reux, il y a eu tout ça, donc il y a cette pudeur de lui demander quand même.
Mais oui, mais parce que tu connais le bonhomme.
Je l'ai invité, j'ai hésité avant lui envoyer un texto, il m'a répondu très gentiment, et en ce moment, malheureusement, il ne peut pas, mais j'ai peur. C'est vrai que j'ai peur de parler à Alain, parce que j'ai peur de le déranger.
Mais Chabat, en fait, il a raison, hein. Il se protège de beaucoup de sollicitations, et donc c'est quelqu'un qui n'est pas facile d'accès. Et parce que lui aussi, c'est un hypersensible pour y revenir. Donc, entre hypersensibles...
La liste des gens qui ne sont pas hypersensibles,
tout à fait.
Apparemment, tout le monde est hypersensible.
Éric Zemmour.
Ça, c'est sûr.
Donc, c'est pour ça que j'avais du mal à lui dire, à lui proposer le film. Mais bon, c'est vrai qu'il a eu la gentillesse aussi de participer à Casablanca Driver. Après, je lui ai proposé d'autres projets, il n'était pas dispo. Mais c'est pas toujours simple de convaincre M. Chabat.
Tournage était paisible ?
Ah ouais, hyper calme. Et puis l'enfant était super. L'enfant était
ouais, il joue super bien. Hein.
Incroyable.
Quel âge il a aujourd'hui, Manuel ?
Aujourd'hui, 25, bah, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, c'est un ado. Enfin non, maintenant c'est plus qu'un ado, il a 25 ans. Ouais, c'est ça. Le film est de 2015. Donc, non, pas 2015. Qu'est-ce que je dis ?
2005.
Ah ouais, putain, pardon.
Ah ouais.
Il a eu 15 ans, le film.
On ne triche pas comme ça sur la vie, Maurice Barthélémy. Il faut assumer le temps qui passe, Maurice Barthélémy.
Ouais, ça a 16 ans. Ça a 16 ans. Et ce qui était marrant, c'est qu'à l'époque, je ne voulais absolument pas trop dater le film, donc j'avais choisi une bagnole qui était déjà complètement passé d'âge, qui était une vieille Volvo 240.
Rendre le truc un peu intemporel.
Ouais. Et pareil, sur les téléphones portables, je faisais une fixette pour qu'on ne voit pas les téléphones portables à l'écran. Parce que je ne voulais pas qu'on se dise 10 ans plus tard, « Oh, putain, les téléphones qu'ils avaient !»
Alors que « re », c'est plus marqué dans une époque.
Oui, c'est vrai.
Et il y avait ce sentiment de troupe assez fort à l'époque avec les Robins.
Ouais, plus que troupe, c'était, je te dis, c'était presque sectaire, quoi. C'est-à-dire que on ne riait qu'entre nous, on ne se déplaçait qu'entre nous, on était complètement, on était en vase clos.
T'as ça, toi, Rosa, dans cette, tu fais partie de la nouvelle génération des humoristes. Est-ce que tu sens qu'il y a une troupe qui se crée au niveau des humoristes, des connexions qui se font? Est-ce que tu te sens appartenir un peu à un groupe?
Il y a des familles, il y a des affinités. Je pense qu'il y a des. Tu vois, avec ce que Shirley Soignon essaie de créer avec le Barbès, où elle a envie peut-être qu'il y ait une réflexion autour du rire et peut-être de rire un peu en bonne intelligence et différemment. En tout cas, de ne pas rire en véhiculant des clichés.
Pas de blague oppressive.
Voilà, donc il y a des humoristes auxquels que moi, dont j'aimerais bien, avec lesquels j'ai envie de devenir amie, d'en apprendre plus. Mais avant, j'étais dans une troupe d'impro qui n'a pas duré si longtemps, qui s'appelait Les Soirées Plaisantes. Et il y avait ce côté très, très sectaire, très fou, tous ensemble. En effet, c'était délirant et j'en suis parfois quand même un peu nostalgique. Et c'est vrai que c'était incroyable. Ouais, c'était le plus gros fou rire, en effet. Et tous ensemble. Il y a moins. Non, c'est un peu plus. C'est de la camaraderie dans le stand-up, mais c'est des belles rencontres. C'est aussi. Tu vois, j'ai eu la chance de faire Pasquinade, le plateau d'Haroun.
Ouais.
Et résultat, je connaissais pas bien Haroun. Et donc là, j'étais très contente de le rencontrer. Et puis voilà, qu'il me fasse des retours sur mes blagues le soir même, qui me dit ça, assume-le encore plus, prends ton temps. Je demande, ah, trop bien. Puis le lendemain, il m'a dit, ah, par rapport à ce qu'on s'est dit, tiens, va voir ce lien. Je demande, ah, yes. Donc ça, c'est plus... dans le stand-up, j'aime bien avoir des mentors, quoi. Des gens que j'admire et qui, voilà, avec qui je me dis, ah, super, ça me permet de m'élever, de me dire si je peux progresser en regardant un peu ce qu'ils font.
Tu crois que deux personnes qui font du stand-up peuvent vivre ensemble?
Bah, j'aimerais y croire parce que j'ai deux humoristes américains que j'adore, Sam Morril et Taylor Tomlinson, qui, aux États-Unis, qui vivent en ce moment une histoire d'amour incroyable. Parfois, en story, je sais plus si c'est aujourd'hui ou hier, elle mettait des moments où ils marchaient tous les deux dans les rues de New York en se faisant des blagues et j'étais en mode, ah, oh. Ça me rendait folle d'amour pour eux, quoi. J'étais très envieuse de ce qu'ils vivaient. Je crois qu'au fond, il y avait un peu de ça aussi dans mon podcast, l'idée de, ah, ça se trouve, je vais tomber amoureuse d'un humoriste. Finalement, non, hein. Le constat est plus négatif. Ça ne sera pas la solution, l'issue. Non.
Mais en même temps, t'en sais rien, t'es encore assez jeune, il peut t'arriver deux, trois rencontres.
Oui.
Je me demande si la dynamique entre deux. Enfin, tu sais, vraiment.
Ah, Thomas avait des bébés.
Ah oui.
Sa femme Audrey.
Ouais.
Mais tu vois, mais. Et puis, il y a eu Blanche avec.
Avec Louis, ouais.
Ah oui, bien sûr.
Ouais. Non,
ah,
c'est
oui,
vrai, il y en
sûr.
A.
Ouais, ça. Bah, immense fantasme, Blanche Gardin et Louis Siquet. J'avais une blague à un moment. Je disais. Attends, c'était quoi déjà? J'avais envie de me masturber en train de le regarder lui. En train de la regarder elle, le regarder lui se masturber. J'avais envie de me masturber en train de la regarder elle, le regarder lui se masturber. Je ne sais pas si vous pouvez garder ça.
C'est marrant. Me masturber en train de regarder Blanche, le regarder se masturber.
Lui se masturber, ouais. Tellement je les aime.
Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné?
Eh bien, moi, c'est ma meilleure amie et metteur en scène, Adrienne Olé, qui me le répète souvent, qui m'apprend à me réjouir sur le moment quand il y a quelque chose de bien qui arrive. Parce qu'en effet, j'ai ce truc tout de suite déjà d'être dans après ou dans un truc de, ou à diminuer ou une fois que c'est là à moindrir ou pas réussir à me réjouir suffisamment.
Une fois que c'est fait, c'est normal.
Ouais,
du coup,
exactement. Voilà. Et elle me dit, attends, la Rosa, là, regarde ça. Elle me met plus le nez dessus sur c'est bien ça. Rien. Prends le temps d'aimer, d'avoir du plaisir de ça, de savourer. Parce que...
Tu te reconnais là-dedans, Maurice?
Alors, on ne s'est pas concerté et j'allais dire presque la même chose.
Sauf c'est que lui, dire... c'est Isabelle Nanty, donc c'est notre metteur en scène.
C'était de rester dans le présent. C'est-à-dire vraiment, moi qui avais tendance à tout le temps anticiper le futur ou regretter le passé, à un moment, quelqu'un m'a dit « Et si tu te contentais de ce qui se passe dans le présent ?» Bah, putain, ça a changé ma vie. Alors c'est marrant, tout à l'heure, ça, l'émission a commencé et on a parlé du présent et de l'existence du présent. Donc tout de suite, je me suis dit...
Oui, ah. C'était tout à l'heure, donc essaie d'être dans le présent.
Donc voilà, donc, ouais, ça, pour moi, ça a été un conseil très utile et qui m'a été donné le jour où je me suis fait tatouer. Ce qui fait qu'à chaque fois que je vois mon tatouage, je me rappelle cette bonne parole.
Tu te rappelles à l'époque ?
Exactement.
Tu pensais au présent.
Et donc maintenant.
Il n'est pas encore vraiment, mais.
Oui, mais maintenant.
Tout est au passé, là. Tout ce que tu me dis, c'est au passé. Dans le présent. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Maurice ?
Il faut que je me fasse tatouer.
D'ailleurs, je pense que ça aide. T'sais, en fait, quand tu es dans l'anticipation, ce qui fait que. C'est une analyse vraiment à la volée, ce que je suis en train de faire. Je vais faire
c'est sans filet. C'est sans
faire
filet.
Comme si j'y avais pensé depuis 2 ans, alors que je viens de l'inventer dans ma tête. Mais en gros, j'ai l'impression que, puisque tu anticipes,
okay.
Le moment où quelque chose se passe bien, tu es seulement rassuré de ce que tu avais anticipé, en disant « c'est bon, c'est fait
ouais, ».
Donc tu
ne
peux
sûr.
Pas en profiter,
non.
Puisque le fait de l'avoir anticipé, ça fait que tu es juste soulagé que ce que tu avais anticipé soit arrivé, donc tu réanticipes. Et donc, moins tu anticipes, plus tu peux être dans le présent aussi, parce que c'est plus le résultat de ton, c'est plus la rassurance de ton anticipation que tu as sur le moment, c'est le moment.
C'est vrai, mais c'est
pas mal pour un sans filet.
Oui, oui, c'est juste ce que tu dis.
Va prendre une douche.
C'est
Navo, vous êtes un vrai, c'est vrai.
T'es très intelligent, Navo, mais il y a aussi quelque chose.
Il le sait, il le sait.
Oui, ouais.
Non, je suis au courant.
Il est hyper sensible.
mais parfois, faut pas non plus s'empêcher de fantasmer, parce que c'est aussi. Ça, une façon d'avoir... Moi, je ne suis pas contre les plaisirs fictifs, tu vois. Dans le sens où, parfois, d'avoir de l'imagination, de me faire des films, même s'ils ne se produisent pas...
Ah, c'est trop cool.
Et bah, c'est très cool aussi. Même s'il y a peut-être...
Quand j'aurai mon spectacle à Bercy,
mais
il y aura
oui,
ça,
t'es
il y aura
là,
ça.
Et il n'y a pas forcément de déception quand ça ne se produit pas, parce que tu sais au moment où tu le rêves que tu es déjà un peu en train de fantasmer,
ouais.
Quelque, de rêver.
Mais ce n'est pas tout à fait la même chose que de te dire « Demain, j'espère que ça va bien se passer.
Ouais, »
Tel
ouais.
truc très précis.
Bien sûr.
Ou « J'espère qu'il va se passer ça. » C'est un truc que tu m'as souvent dit, avec lequel je suis très d'accord, qui est que du coup, quand tu as une attente précise, il y a, alors je sais plus si c'est toi qui, ou peu importe, on sait jamais qui dit quoi à qui, mais en gros, quand tu as une attente très précise, bah, 99 000 choses peuvent se passer qui sont pas ce que tu attendais, alors qu'il y en a la moitié qui pouvait être positive, mais comme c'est pas exactement ce que tu attendais, bah, tu es déçu.
Déçu.
Ouais, c'est ce que tu m'as dit quand tu es venu dans mon podcast, parce que tu m'entendais beaucoup dans mon podcast dire ah, j'aimerais bien avoir une chronique sur France Inter, j'aimerais bien avoir une chronique sur France Inter, et tu m'as dit hey, oh Rosa, ton podcast, c'est tellement précieux ce que tu as, et tu m'as vraiment fait un cadeau.
Dis-toi plutôt, j'aimerais bien faire un truc bientôt. Comme ça, si c'est pas une chronique
sur
France Inter,
c'est moins précis.
Tu dis, ouais, yes, je fais un truc.
Bientôt.
Et je vais même aller plus loin. J'étais dans ce réflexe-là. Ouais, je suis pas allé plus loin de ta pensée.
Va plus loin, mec, vas-y.
Je pensais qu'avant, quand on a réalisé Bref, par exemple, en tant qu'obsessionnel que je suis, je pensais qu'il y avait une manière de faire de la comédie et que l'acteur devait parler comme ça, qu'il fallait faire comme ça et comme ça. D'accord
C'est aussi parce que tu t'es beaucoup auto... mis en scène, tu vois ce que je veux dire ?
Oui.
Tu t'es beaucoup dirigé toi-même,
oui.
Donc forcément, tu avais une vision, tu essayais d'aller au plus près de ta vision, tu faisais le truc que tu avais prévu de faire et tu étais content.
Et ça marchait.
Et ça marchait,
du coup, ça aurait pu me confirmer en me disant ma version est la bonne.
Mais parce que c'était entre toi et toi. Le metteur en scène, le réalisateur et le comédien, c'était toi.
Oui, c'est ça. Or, j'ai compris avec, et d'ailleurs, c'est avec, grâce à toi aussi, Maurice, je dois te renvoyer.
T'as montré les petits doigts.
Comme ça.
Très bien.
Je dois te le dire, et il y a une trentaine d'acteurs qui est venu, enfin il y avait une centaine d'acteurs, mais on a fait le bref des 30 ans, où c'était un bref aléatoire, j'explique, donc c'est un épisode de bref où à chaque fois c'était aléatoire, il y avait des acteurs qui venaient. Il y avait le rôle de mon père qui était joué par plein de gens, de Pierre Niney en passant par toi, il y avait Franck Gastambide, il y avait PPD, il y avait plein de gens très talentueux, et à un moment donné on avait une scène, on avait, voilà la scène c'était le gamin ouvre la porte, il voit son père réagir, fait va te coucher.
Ouais.
Et en fait, il voit une passoire et on voit que le père est devant Canal+, brouillé.
D'accord.
Il comprend pas le gamin, il a juste 6 ans. Et après, en flashback, il se dit j'ai compris ce qui se passe. Et en fait, on a eu 30 pères différents. Voilà, à l'époque, pour décrypter, il fallait mater la passoire, avec la passoire. Et en fait, on a eu 30 scènes différentes avec 30 acteurs différents, dont toi, et chacun avait une proposition totalement différente et les 30 étaient efficaces. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas une manière de la faire de la comédie, mais il y avait plusieurs façons d'obtenir un rire et d'une façon très efficace.
J'avais pensé qu'en fait, c'est un exercice trop cool à faire.
Et oui.
C'est une chance qu'on t'as la même séquence et on t'envoie 30 comédiens, en plus pas n'importe qui, qui te font la même séquence.
Ouais, c'est génial.
Donc tu te rends compte à quel point le comédien apporte quelque chose à ta séquence. Quoi.
Et ça m'a détendu sur mon plateau de cinéma ou de tournage parce que je me suis dit, mais de toute façon, la scène, si je ne l'ai pas comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut que je l'ai, qui va me rendre obsessionnel, qui va me rendre trop exigeant, et du coup, casser un peu l'ambiance sur le plateau en mode « Non, attendez les gars, on la refait, on la refait », dire « Ça se trouve, je veux partir dans cette direction, mais ça se trouve, il y aura l'accident de la prise. Donc, à un moment donné, on lâche prise, tu vois, justement. Et on l'a fait autre chose et on aura un autre rire différemment, une respiration que j'ai pas eue. Et en fait, ça me détend maintenant. Je n'ai plus aucune attente sur les acteurs. Je leur dis juste, voilà le point A, le point B. Vous y allez comme vous voulez. Et si on doit reficeler, on va resserrer de toute façon au montage. On resserrera,
bien sûr.
On y arrivera parce que vous êtes des gens compétents. Et ça m'a beaucoup détendu.
Le seul truc qui est sur lequel moi je ne lâche pas, c'est le texte. C'est-à-dire, je suis effaré de voir comment 50% des acteurs ne prennent pas leur texte. Ça me rend totalement marteau. Expression de boomer. Mais
marteau, c'est-à-dire, ça, genre, waouh, c'est marteau.
Marteau, ouais. Et donc, ça me rend giga vraiment. Marteau, ah ouais, ouais, giga marteau. Et vraiment, et je ne comprends pas. Et il n'y a qu'en France, hein. C'est vraiment une spécialité française.
Oui, oui, c'est
ne
vrai.
Pas apprendre le texte. Pourquoi? Parce que il faut garder une certaine fraîcheur. Et donc les mecs ils branlent rien. Et c'est, je suis assez effaré de voir ça. Donc
je pense qu'on peut s'amuser avec un bon texte solide. On peut s'amuser justement à inventer plein de choses. Évidemment. Dans les virgules, dans les silences.
Puis c'est surtout qu'une fois que t'as dit le texte, tu peux en sortir. Mais pas le contraire.
Il faut bien connaître le texte pour en sortir.
Évidemment.
Faut faire un gros. Mais faut avoir bossé quoi.
Bah il faut bosser. C'est tout le problème qu'on a en France.
Surtout c'est ce que ça rejoint ce que j'allais dire, qui est qu'en fait en tant que réal, t'es aussi en charge de la cohérence globale. Global du truc, parce que ton comédien ne peut pas se rendre compte en permanence, surtout qu'il tourne dans le désordre, que ce qu'il est en train d'improviser, ça n'a pas de sens.
Ne correspond pas.
Donc, en fait, tu dois pouvoir le ramener au texte à un moment en disant non, attends, parce que là, vraiment, il manque quatre informations qui sont importantes dans ma structure narrative que tu as complètement enlevé parce que tu n'as pas appris le texte. Quoi.
Mmh. C'est ça.
Donc, ça m'avait beaucoup. J'ai appris, ce jour-là, j'ai appris à me détendre et justement ne plus anticiper et de me dire de toute façon, la comédie naîtra comme. Et maintenant, quand on monte sur scène aussi, en tant qu'artiste, je monte sur scène et je dis, je ne m'en veux pas d'avoir raté une blague. Je me dis, ce soir, c'est un spectacle vivant. Ce soir, c'est pas qu'elle est ratée ou je l'ai mal dit. J'ai tenté autre chose dans l'humeur où j'étais et je me juge plus et du coup j'accepte et je suis plus dans un bon moment. Dans un bon moment. Voilà.
Non, mais ça, je trouve ça formidable parce que justement, je trouve qu'il y a une dictature de la vanne quand on fait du stand-up et c'est bien de s'en affranchir.
Ouais, laisser le temps arriver, laisser respirer. C'est quoi votre truc pour aller mieux? Rosa, c'est quoi ton truc pour aller mieux?
La masturbation.
La masturbation,
ouais. Ouais, en général.
L'endorphine.
Moi. Surtout le matin, quand j'ai un peu mal à la tête et que j'arrive pas à sortir du lit.
Est-ce que c'est drôle,
je me masturbe et ça me donne un petit coup de peps.
Avec ou sans sextoy?
Moi, ça m'endort, moi.
Sans sextoy.
Ouais.
Bah, à un moment, j'ai testé.
Il y a quand même des choses formidables hein, qui sont faites pour les femmes.
Ouais, ouais, bien sûr. Mais le problème du sextoy, c'est que ça t'échappe un peu l'orgasme. Tu vois, sur le côté
maîtrise. Oui.
Ouais, t'es là, genre, oh! Et puis t'as joué. Mais alors que.
Tu joues comme ça.
Ouais, ouais. Alors, comme ça, comme une chanteuse d'opéra.
Comme la castagne.
L'opéra qui s'électrocute. Ouais. En fait, il faut le débrancher avant de l'utiliser. C'est peut-être ça aussi.
Il est sur secteur.
Non, elle n'est même pas sur secteur.
Il branche aux grippes, hein, ce qui fait que. Pas ouais. J'ai une tartine qui arrive dans ma bouche au moment où je jouis. Mais.
Tu te défonces à l'orgasme. Tu te détends à l'orgasme.
Ouais, je me détends. Ça me détend énormément. Mais après, on m'a parlé d'autres techniques. On me dit qu'il faut absolument que je teste des gouttes de THC. Il paraît que c'est bien aussi.
Pas la THC, là, le CBD.
Le CBD, ouais,
CBD. THC, c'est l'autre. C'est l'autre molécule. Tu vas avoir.
C'est plus difficile à trouver.
Tu vas fumer la moquette.
Si. Noman Osnim, on avait fait goûter. On avait bien rigolé. Mais
c'est pas immédiat. Hein,
qu'est-ce que c'est drôle. Oui. CBO. Ouais, le CBD, alors toi, t'as testé c'est
oui.
Pas... Ouais.
C'est pas immédiat. C'est un truc très léger. Ouais. Tu peux t'endormir un peu trois heures après l'avoir pris. Et encore, il faut vraiment prendre une bonne dose.
Oui, il faut y aller petit à petit. Il faut voir ce qui se passe. Il faut tester. Mais c'est vrai que j'ai une amie qui a un tempérament assez anxieux et qui prend des gouttes de CBD et qui m'a dit j'ai ça dû prendre une dose quand même assez des pourcentages, je crois que c'est des pourcentages.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est
j'ai pris
des
trucs et c'est vrai que ça marche vraiment
ça
marche vraiment pour elle. À identifier, à voir, je crois que c'est légal totalement en France hein. C'est légal, on boutiques. Ne fait pas la promotion d'un truc illégal.
Non, il y a des boutiques, j'ai acheté ma petite dose de CBD. Mais en revanche, je n'arrive pas à dire CBD, je dis tout le temps CBO.
Le McDo, donc le McDo, clairement.
Et allumer une bougie aussi, c'est tout bête, mais j'adore les lumières, tu sais, voilà.
Lumière douce.
Évidemment, le soleil, tu vas se mettre au soleil, prendre des rayons de soleil. Et quand il n'y a pas de soleil, allumer des bougies, des belles bougies, voir de la lumière, tout ça. Avoir toujours de la lumière, beaucoup de lumière chez moi.
Mais quand même un bon gros doigt dans la chatte.
Ouais, ça aide aussi, ouais.
Les deux, quoi.
Ouais.
Soit là, soit l'autre.
Ouais, pas trop gros, long plutôt.
Pas dedans, dessus.
Un peu des deux. Je te montrerai.
Tu me montreras.
Ok. Maurice, tu as un truc pour aller mieux?
Moi, je te dirais, moi, je passe par le sport. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un énorme vélo elliptique dans un deux pièces qui prend l'équivalent d'une pièce. Mais comme je ne peux pas aller dans les salles de sport parce que j'ai un problème avec la proximité, les odeurs, ce genre de choses.
Ça sent souvent le tapis de gym. Ça sent l'UNSS, on va dire. Ça sent,
ça sent la vieille chaussette, ça sent le mec qui se promène à Walp, ça sent tout ça. Donc ça ne va pas. Donc j'ai un vélo elliptique et dès que je sens monter du stress, je monte sur mon vélo. Et je me shoot à l'endorphine. Ça me fait un bien de dingue. C'est un sport qui est assez doux pour le corps. C'est pas trop violent. Et j'ai remarqué que durant les périodes où, un peu sombres que j'ai pu traverser, de deuil, etc., le sport m'a toujours sauvé.
C'est vrai.
Donc, je conseille vivement le sport, quel qu'il soit.
Et d'accord. Les promenades en nature, les balades, seraient voir des arbres, la forêt. Moi, j'adore. J'ai passé le deuxième confinement à l'île aux Moines, dans le golfe du Morbihan. J'étais heureuse tous les jours. J'étais heureuse parce que je voyais le soleil se lever, le soleil se coucher.
Et mine de rien, c'est ancré dans nos gènes pour nous dire que c'est une zone de confort ici.
Ah oui, oui. Et c'est tellement rassurant. Tu te lèves, donc tu vois, le soleil est là, puis tu passes ta journée, puis je sais pas, les temps sont marqués, et puis le cycle, et tout est une journée, est une vraie journée. T'as pas ce truc à Paris où...
Après, tu te fais chier à 18h, parce qu'il n'y a plus rien à faire à la campoche, on est d'accord.
Je déconne,
j'habite à la campagne.
C'est génial.
J'adore ça.
Et puis, il y a des faisans dans le jardin, et non, c'est quand même... Ouais, si, c'est génial.
Tu les as vraiment, le signe, ils sont morts. Du coup, t'as fait ce signe, des faisans.
Des faisans,
ils sont morts, on leur a coupé la tête.
Il y avait du mimosa en fleurs longtemps. Il y avait même
du mimosa.
Est-ce que vous vouliez recommander un artiste ou une artiste que vous aimez, un CD, un livre que vous avez adoré? On a recommandé des choses sur l'hypersensibilité, mais il y a peut-être un coup de cœur ou un très très jeune artiste que vous aimeriez booster dans cette émission.
Moi, je voudrais parler d'Ornella Fleury.
Ouais.
Voilà, parce que c'est une copine et qui, à chaque fois qu'on lui pose des questions en lui disant qui vous voulez recommander, elle recommande les Robin des Bois ou Maurice Barthélémy. Donc, je lui dois un renvoi d'ascenseur.
Ça fait plaisir. Ornella Fleury.
Ornella Fleury qui a sorti sur Canal une très bonne série. Et qui, j'espère, il y aura une petite saison 2 derrière. Donc voilà, je la recommande chaudement.
Très bien. Ornella Fleury.
Ah, moi, il y en a plein.
Ça peut être une chanson, ça peut être plein de choses. Un film.
Un film.
Une collègue à toi que tu adores, qui t'apporte beaucoup.
Il y en a plein. J'ai reçu tellement de personnes dans mon podcast, Nana, que je trouve super. Je pense à Julie Albertine Simonet, qui est aussi venue dans 60, à Tani, Odalisque. J'ai mon amie aussi, Laura Demange, que je trouve géniale. Il y a tellement de jeunes humoristes de stand-up qui m'inspirent, que je trouve hyper fortes. Et après, sinon, en série, j'ai adoré récemment la série de Michaela Cole, I May Destroy You, que j'ai vu sur OCS, que j'ai adoré. Et en livre, j'avais adoré... Trigger Warning, ça parle du viol. Ouais.
Elle est incroyable, cette série. Mais ouais. Faut... Les gens, ils l'ont conçu dans un bon moment. Je regarde, j'ai mal vendu.
Non, c'est assez violent. C'est incroyable.
Très violent, mais incroyablement bien.
Et en livre, j'adore Houellebecq et j'ai relu récemment...
Une recommandation, ça suffit. Hein.
Elle
vraiment fait Michaela Coel, Houellebecq. C'est large.
Bah oui, mais les particules élémentaires, c'est quand même vraiment très bien. Je l'avais commencé à le lire et puis en fait, je n'avais pas terminé. Et puis je l'ai relu là pendant le deuxième confinement et c'est vraiment très, 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 très drôle. Ça se fout vraiment des hippies, tu vois, de la génération un peu de celle de mes parents. Et moi, ça m'a bien aidé.
T'as eu des parents 68 ans ?
Ouais, j'ai eu des parents 68 ans. C'est drôle, donc c'est marrant de se moquer en arrière, et donc oui, non, c'est très...
Et il t'appelle Rosa, pourquoi Rosa Parks ?
Rosa Luxembourg.
Ah, Rosa Luxembourg.
Ouais. C'est qui, Rosa Luxembourg ?
Ah bah, c'était une anarchiste.
Ouais. C'était en Allemagne, elle est...
Pas Luxembourg, du coup.
Non.
François Hollande, il est en France.
Ouais. Une spartakiste.
C'est vrai, j'avoue, j'ai pas pensé.
C'est les révolutionnaires marxistes, enfin, le Parti Socialiste, qui était en Allemagne avant, et là, ce que Hitler passe au pouvoir. Et c'était eux qui étaient...
Avant, hélas, t'as dit ?
Oui.
Tu t'es dit, je vais préciser, hélas, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Dis hélas, quand même, on sait jamais, les gens vont croire que c'est
non,
super.
Non, parce qu'en fait, ce qui est très connu, c'est que parce que le Parti Socialiste allemand était fort, mais il était très divisé. C'est pour ça, hélas, c'est qu'en fait, elle était en fait assez populaire, mais elle a été, en effet, fusillée. Voilà.
Ah oui.
Oui, mais... Voilà, c'était ça, le petit bagage
d'accord,
que mes parents m'ont offert à la naissance avec mon nom.
Moi, c'était pour Maurice Papon. Chacun ses origines. On choisit pas, c'est comme ça.
Est-ce que vous avez passé un bon moment?
C'est très, très bien. Ouais.
Bon, merci beaucoup. Robin des Bois, il y a là des prénoms.
Comment?
Remarquez, vous avez deux fois plus de prénoms que de gens.
Oui, t'as raison. Bah,
Maurice,
déjà, Pef, Pierre-François.
Barthélémy, ouais. Pierre-François, Martin, Laval, ouais. Élise, Lard, Nicole, Pascal, Vincent, ouais. Marina. Faites 10 quand même. Ouais. J'ai oublié quelqu'un.
Non ouais, t'as raison. C'est la première fois que quelqu'un fait cette analyse
beaucoup
que je trouve
prénoms.
Très pointue.
Je trouve qu'il y a beaucoup de prénoms dans
ouais, trop il y a peut-être trop de prénoms.
Peut-être un peu trop.
Et vu que ça fait des années que j'y pense, je suis content d'en avoir
bah oui,
un sous la main pour lui dire.
Sac, il a déchargé son sac.
Surtout que mon vrai prénom, c'est Maurice Domingue, figure-toi.
Ah ouais,
parce que ma mère était d'Haïti, elle avait voulu donner le nom de son île à son fils.
C'est, c'est quoi son île, du coup ?
Haïti, mais... Non, mais c'est ça. Pardon, excuse-moi. Et donc, moi, je réponds premier degré. Et donc, voilà, elle m'a appelé Maurice Domingue, qui était compliqué à porter. Déjà, Maurice, c'était lourd.
Ah, ton prénom, c'est Maurice-Domingue ?
Ouais.
Et comme Saint-Domingue.
Maurice, c'est un peu old donc, school, même quand on est né en...
Comme Pef.
Ah bah,
70
69, ouais. Déjà, s'appelait Maurice, à l'époque, il n'y en avait plus. Hein.
Ah d'accord, ok.
Non, ça n'existait pas.
Et à quand une réunification des Robin des Bois, un film
c'est une vraie question, ça.
Écoute, pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Et je vais te dire pourquoi. Parce que je crois que l'humour vieillit beaucoup plus vite que le rock'n'roll. Et qu'il ne faut pas se réunir 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. C'est souvent pathétique. Et ça s'est vu récemment avec les Friends qui c'était tellement terrible que de les revoir tous tirés à quatre épingles. Donc voilà,
avec
c'était
pouf, mais il se brise la hanche vraiment.
Oui, non, tu vois, non,
personne
n'est
prêt.
Je crois qu'il faut pas.
Parce
qu'il
y a un enfant,
qu'on s'invite les uns les autres dans des films avec plaisir, tout va bien, mais surtout pas essayer de refaire effectivement Pouf le cascadeur et Radio Barefoot avec Jean-Paul.
J'espère que vous avez passé un bon moment, pour moi ça a été le cas. Merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Salut. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, likez le bouton, faites un truc, commentez.
Likez le bouton.
Ouais, non, ouais,
on peut liker les boutons.
Tu peux liker le bouton, absolument. N'hésitez pas à faire parler de l'émission, c'est grâce à vous qu'on est connu et c'est grâce à vous qu'on est reconnu. Merci beaucoup et on espère que ça vous plaît. En tout cas, nous, on essaie de faire le maximum. Donc, si à un moment donné, vous pouvez faire le maximum, likez, ça recommande à des gens
que
vous connaissez.
Moi, j'étais à 70%.
Pas. Moi, j'étais au maximum.
T'étais à 100%, toi ?
110. J'ai on comptait à 4. Donc, t'es 4.
Merci, mais...
Bisous.
C'est pour faire des rigoler des gens.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics, all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.